7h30, c'est l'heure du journal. Avec vous, Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça devait être la fin du feuilleton dans la crise de la pêche. Un ultimatum aujourd'hui, mais Londres vient de le rejeter. La France attend encore une centaine d'autorisations pour ses pêcheurs et menace d'aller au contentieux si elle n'arrive pas d'ici ce soir. Pendant ce temps, vous l'entendrez, les premiers concernés sont à bout. Faudra-t-il encore une fois renoncer à ses congés de fin d'année ? L'inquiétude dans les services de réanimation, certains déjà au bord de la saturation. Nous serons à Nancy. Dans ce journal aussi, un syndicat chez Starbucks, une première aux États-Unis. Beaucoup de neige sur les routes alpines. En Savoie, les autorités demandent même aux skieurs de décaler un peu leur arrivée ce week-end. Et lui est impatient de fêter Noël. Rencontre dans quelques instants avec le champion breton de la maison illuminée.
Et à 7h45, la Chine au menu du débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. La Chine qui fête les 20 ans de son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce.
France Inter.
La guerre des nerfs entre Paris et Londres risque bien de ne pas prendre fin aujourd'hui.
La France a obtenu jusque-là un millier de licences pour que ses pêcheurs puissent continuer à travailler dans les eaux britanniques, mais il en manque encore 104 ce matin. Et c'est aujourd'hui qu'expire donc l'ultimatum imposé au Royaume-Uni par les Européens. Alors la fin de la crise ? Pas vraiment, car à la dernière minute, les Anglais ont rejeté hier cette échéance. À Paris, on se dit prêt à aller au contentieux si les dernières autorisations ne sont pas accordées ce soir. Au milieu de ce dialogue de sourds, des pêcheurs à bout après un an d'attente pour certains. Mathilde Dehimy nous refait le film des derniers mois.
C'était le scénario que tous craignaient, des négociations après le Brexit, avec de nouveaux papiers à fournir. Longtemps, les pêcheurs français y ont cru.
Au début, on ne s'inquiétait pas trop spécialement, parce qu'on pensait déjà que ça allait aller beaucoup plus vite. Et vous voyez, on était plus optimiste que ça, mais c'est vrai qu'entre février et maintenant, ça n'a pas tellement évolué. Nous, on est une petite unité, on n'a pas de moyens informatiques qui enregistrent tous les jours nos données. Nous, c'est des preuves plus ou moins que papier, c'est pas facile à prouver.
Sur les quais, on s'impatiente.
Là, le Royaume-Uni est quelque part dans la surenchère. Ils redemandent toujours des preuves. On est arrivé au bout, nous.
Certains bloquent en mai le principal port de Jersey. Premier avertissement.
Les marins, leur métier, c'est de pêcher du poisson. C'est pas de faire la guerre. Hein. Donc on va pas refaire un énième épisode de la guerre de 100 ans.
Les licences tombent au compte-gouttes. 1004 pour l'instant. Les discussions les plus avancées aboutissent enfin la semaine dernière avec Guernesey. 43 licences. Mais une centaine de bateaux restent coincés en eau française ou avec une licence provisoire jusque janvier à Boulogne, Calais et autour de Jersey. Les marins sont à bout.
Nous, on demande juste à travailler. On n'entend jamais parler des marins pêcheurs. Il y a un moment, ça ne va pas rester calme. C'est qu'il y a un moment, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut rentrer dedans dans les Anglais, c'est tout.
Après avoir bloqué des ports et Eurotunnel, ils scrutent l'attitude de Londres et de Bruxelles avant de décider de nouvelles actions.
Et face à l'inflexibilité de Londres sur la pêche, comme sur d'autres dossiers, Emmanuel Macron a réagi hier. J'ai terriblement envie d'un gouvernement anglais qui travaillerait de bonne foi avec nous. Il a évoqué le sujet au cours de sa conférence de presse à 3 semaines de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le chef de l'État veut une Europe plus souveraine, une réforme de Schengen et un service civique européen pour les jeunes. Il aura l'occasion d'en parler avec le nouveau chancelier allemand aujourd'hui. Olaf Scholz attendu ce midi à l'Élysée pour son premier déplacement à l'étranger.
2460 malades du Covid en réanimation.
C'est encore très loin des pics atteints en 2020 et jusqu'au printemps 2021. Mais c'est déjà plus en revanche que la quatrième vague. Le plan blanc devrait être très prochainement déclenché au niveau national. Sans attendre, de nombreux hôpitaux ont activé le leur pour réquisitionner des personnels au cas où. Certains craignent donc déjà de devoir renoncer une nouvelle fois à leurs vacances de Noël, comme au CHU de Nancy, où la réanimation déborde, Solène Lehen.
Dans les couloirs du service de réanimation, allô, le téléphone du docteur Bérangère Denis sonne sans arrêt depuis plusieurs jours.
C'est moi qui ai le téléphone d'astreinte. C'est moi qui reçois effectivement les appels pour les potentielles entrées. En l'espace de 2 heures, j'ai au mieux au moins 6 appels.
Il va certainement bientôt falloir ouvrir des lits supplémentaires. Plus de travail en perspective, certains soignants vont devoir faire une croix sur leur congé de Noël, regrette d'avance Samira Bouadjaj, cadre de santé.
On prépare psychologiquement les équipes, ils vont prendre sur eux parce que voilà, c'est quand même un métier où on pense aux patients d'abord, mais ils ne viennent pas de gaieté de cœur, hein, vraiment pas. Lassitude, fatigue, pas envie d'y retourner. vraiment pas.
Dans le service, certains soignants déplorent que 70% des malades de réanimation ne soient pas vaccinés.
Si l'épidémie s'accélère, on ne peut plus prendre des vacances, on est obligé de travailler plus et qu'on ne sait plus où mettre les patients, ça nous met quand même grandement en difficulté.
Plutôt que la méthode forte, les réquisitions pourtant permises par le plan blanc, le chef du service préfère faire appel aux volontaires et ne doute pas que malgré la fatigue, les médecins et infirmiers seront nombreux à annuler leurs vacances pour rester au chevet des patients à Noël.
Et cette fois, les EHPAD seront-ils épargnés? 80% des résidents ont déjà reçu leur rappel vaccinal, selon la ministre chargée de l'autonomie. Et pour Brigitte Bourguignon, ce chiffre satisfaisant permet pour l'instant de ne pas refermer les établissements aux visiteurs. C'est le seul secteur à ce stade contraint de fermer face à la flambée épidémique. Les discothèques ont rangé la boule à facettes ce matin depuis 6 heures et pour au moins 4 semaines. Reportage aux côtés des derniers fêtards dans le journal de 8 heures. Voilà en revanche des entrepreneurs qui retrouvent un peu le sourire. La Fédération du bâtiment vient de publier son bilan 2021. Après le fort ralentissement de l'an dernier, le BTP n'a pas encore retrouvé tout à fait son dynamisme d'avant Covid. Mais les perspectives pour 2022 sont plus favorables, Claire Chaudière.
Si l'on commence par observer l'année écoulée, une chose est sûre, le secteur du bâtiment n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Petit boom côté rénovation énergétique, mais le segment de la construction de logements neufs, lui, patine. Résultat, un décrochage global de 5% par rapport à 2019. Il n'empêche, l'optimisme est bien là, car le nombre de permis de construire a grimpé ces derniers mois. Et 2022 devrait être l'année du rattrapage, avec des niveaux de construction attendus supérieurs. Supérieure même à 2019, la lumière au bout du tunnel semble enfin à portée de vue. Reste malgré tout de gros dossiers sur la table, des fragilités importantes. La crise du logement dans les zones les plus tendues, notamment les grandes villes, n'est pas prête de disparaître car la construction reste en panne dans ces territoires, martèle la Fédération du bâtiment. Et puis la crise des matériaux et de l'énergie n'est pas derrière nous, dit-elle. Elle risque même d'impacter fortement ici ou là la trésorerie et les marges des professionnels du secteur.
En 10 ans, 20% des fermes ont disparu en France, soit 100 000 exploitations agricoles de moins depuis 2010, chiffre dévoilé ce matin par le ministère de l'Agriculture. Pourtant, dans le même temps, la surface agricole, elle, est restée stable. Cela signifie que si les exploitations sont moins nombreuses, celles qui restent sont de plus en plus grandes. À l'étranger, ils étaient entassés dans un camion quand il s'est renversé. 53 migrants sont morts cette nuit au Mexique dans un accident de la route. Pour la plupart originaires du Guatemala, ils voulaient traverser le pays, direction les États-Unis.
Toujours aux États-Unis, cette grande première pour le géant du café à emporter.
Un syndicat chez Starbucks. Contrairement au macchiato ou au latte, ce n'était pas vraiment la tradition de l'entreprise sur le sol américain. Eh bien, ça vient de changer. Vous entendez là les cris de joie des salariés cette nuit dans deux succursales du nord-est des États-Unis. Ils ont donc voté la création d'un syndicat. La fin d'une longue bataille avec la direction de Starbucks, Sébastien Paour.
Les Américains y prennent tous les jours des millions de cafés, souvent à emporter dans des gobelets en carton blanc, à l'effigie de la célèbre sirène sur fond vert de la marque née à Seattle. 9000 cafés ici et donc, pour la première fois, une représentation syndicale dans la région de Buffalo, dans l'état de New York, à la frontière avec le Canada. Les employés de 3 cafés étaient appelés à se prononcer par vote. Ils ont lancé la démarche pendant l'épidémie de Covid pour dénoncer les conditions de travail et les pénuries de main-d'œuvre. Et ils obtiennent donc ce que les salariés d'Amazon n'ont pas réussi à faire passer en Alabama, un syndicat, structure rare aux États-Unis, surtout dans la restauration rapide et en l'occurrence dans une des enseignes les plus connues du pays. Les efforts de la direction n'ont donc pas abouti, qui envoyait ses cadres sur place depuis des semaines pour tenter de faire échouer le projet. Les employés qu'elle appelle partenaires seront donc regroupés à Buffalo dans l'organisation Starbucks Workers United, les travailleurs de Starbucks unis. De nombreux autres cafés de la marque pourraient faire de même partout dans le pays. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
11 départements toujours en vigilance orange ce matin dans le sud-ouest pour le risque de crue. Autour de Pau, les gaves pourraient déborder. Dans les Alpes, on craint des avalanches après les très fortes chutes de neige des derniers jours. Et ça va continuer ce matin. D'où cet appel du préfet de Savoie. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent venir skier ce week-end. 40 000 véhicules attendus en Tarentaise, par exemple, sur des routes forcément enneigées. Il serait donc préférable de décaler son arrivée de quelques heures, le préfet Pascal Bollot.
Il va y avoir effectivement des arrivées dans les stations de ski, les premières. Donc nous demandons à tous les usagers de la montagne de décaler leur arrivée. Mais pour ce qui est de la population savoyarde, celle qui travaille évidemment doit poursuivre ses activités. Mais tous ceux qui n'ont pas un motif impérieux pour circuler entre 10h et 15h, on va dire, du matin, ça serait parfait s'ils restent à leur domicile en attendant que l'épisode neigeux soit passé. Ça va continuer après 15h, mais ça sera par bourrasque, ça sera moins important et le plus gros sera passé.
Le préfet de Savoie, Pascal Bollot, des routes enneigées, il y en a aussi ce matin en Bourgogne, conséquence des camions en portefeuille sur l'autoroute A38 autour de Dijon.
En Bretagne, pas de neige pour l'instant, mais vous nous dites que l'esprit de Noël est déjà là.
Et oui, et pour cela, on peut compter sur un habitant de Matignon. Non, je ne vous parle pas de Jean Castex. Matignon, c'est aussi une commune des Côtes d'Armor, près du Cap Fréhel. Et là-bas, un des administrés ne fait pas les choses à moitié. 18 000 ampoules à LED pour décorer son jardin à l'approche des fêtes. Joanne Moison, vous l'avez rencontré.
C'est Hervé, bon enfant, ça ne s'invente pas. Un nom prédestiné pour faire rêver les enfants. Il a transformé le terrain devant sa maison en un jardin de Noël. Ça brille, ça clignote, il y a des automates, un parcours d'accrobranche pour le Père Noël, une crèche, un bateau. Franchement, j'en ai déjà vu, des maisons illuminées. Oui. Mais là, il y a du niveau. Ça a dû vous demander un peu de boulot.
Alors, pour la préparation, un an et demi. Pendant le Covid, je me suis dit, je fais du sport, du vélo, ok, mais il faut que je fasse autre chose.
Ça lui demande du travail, donc.
Ah ben oui, tous les matins, après le petit déjeuner, jusqu'au soir, il est là.
Martine, la femme d'Hervé.
Il s'arrête une demi-heure le midi pour manger, c'est tout.
L'installation en elle-même, c'est 250 m² de fil pour l'électricité, et là, il y a à peu près 18 000 LED.
Ça doit vous coûter un petit peu d'argent.
Financièrement, je le fais parce que je le veux bien. D'accord.
Hervé allume ses lumières à partir de 17h30 jusqu'à 20h, voire un peu plus. La visite est gratuite tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches, en fonction du temps.
Pendant la tempête, ça fait deux fois que j'ai refait.
Ah ben oui, parce qu'il y a eu du vent là ces derniers temps.
J'ai cassé tout, la tente a cassé, j'ai tout refait. C'est vraiment dommage pour les enfants.
Non, moi je trouve que c'est très joli.
Je suis admirative.
Et ce n'est pas fini. Monsieur Bon Enfant pense déjà à l'année prochaine.
Cette année, j'ai 800 mètres carrés de déco. L'année prochaine, on va passer à 1200, 1300. J'ai déjà le projet en tête, mais je ne peux pas le dire.
Et qu'est-ce qui vous motive?
Les lumières, la déco, faire plaisir aux gosses, c'est tout.
Le reportage de France Bleu Armorique. On espère quand même qu'il reste un peu de courant pour les voisins d'Hervé.
Oui, ça serait pas mal qu'il ne soit pas le seul à éclairer son quartier. Merci Alexis Morel pour ce journal. Thomas Legrand à suivre.